Salut, c'est Samuel Catol. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Bise de Tour. Je suis le créateur et le réalisateur de cette série de podcasts. Dans cette série, j'invite des entrepreneurs de TPE-PME à venir échanger et nous partager leur histoire et leur parcours. Découvrir comment ils en sont arrivés là. Dans ce podcast, je te propose une semaine sur deux de partir à la rencontre d'une ou d'un entrepreneur avec qui j'échange sur son quotidien, ses succès, mais aussi ses échecs, ses craintes et ses galères. Découvrir ensemble ce qui fait de lui ou elle un entrepreneur en toute décontraction et transparence. Ainsi, pour nous suivre et ne pas louper les prochains épisodes, tu peux dès maintenant t'abonner sur notre page Bise de Tour sur la plateforme podcloud.fr ou sur la plateforme de ton choix. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Stéphanie Guérissy pour une approche un peu plus design de l'entrepreneuriat. Stéphanie est la fondatrice de l'agence SG Design. Architecte de sa vie au sens propre comme figuré, Stéphanie est attachée aux valeurs fortes que sont l'entrepreneuriat au féminin, le design d'intérieur, le milieu associatif ou encore son approche de l'expérientiel. Mais Stéphanie est-elle polycéphale ? Bonjour Stéphanie, je suis heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Je te souhaite la bienvenue.
Merci, bonjour Samuel.
Comment vas-tu ?
Impeccable.
Oui, avec ce beau temps. Je vais commencer par la toute première question. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter ?
Alors, je suis Stéphanie Guérissy, je suis designer d'espace.
Quel est ton parcours ?
Alors, professionnellement parlant, j'ai suivi une scolarité assez classique, on va dire. Donc, j'ai un bac littéraire et artistique. Ensuite, j'ai fait l'École nationale des beaux-arts, puis une école nationale d'architecture pour bien faire de ma passion d'enfance, je dirais, mon métier d'aujourd'hui.
D'accord. Très lié à l'artistique, si je puis dire, le dessin, plutôt orienté après vers le technique.
Oui, tout à fait. J'ai toujours voulu allier les deux, c'est-à-dire avoir le côté très artistique, mais dans le sens conceptuel.
Oui.
Mais toujours avoir en tête que c'était réalisable, en fait, ce que l'on avait imaginé. Et donc, le côté technique est toujours très important pour moi.
D'accord. Aujourd'hui, quelle est ton activité ?
Alors, j'ai une agence de design que j'ai créée il y a maintenant 18 ans cette année. Donc, j'ai créé ma propre agence de design d'espace, particulièrement centrée sur les espaces de travail.
D'accord.
Pourquoi les espaces de travail ? Parce qu'en fait, pour moi, l'espace a une vraie influence en fait, sur l'état d'esprit des occupants, des gens qui vivent, les bâtiments. Et j'ai toujours trouvé que les espaces de travail étaient un peu les parents pauvres, en fait, de l'architecture.
D'accord.
Qu'on y prêtait peu attention. Et dès le départ, ça m'a toujours passionnée de travailler sur les liens sociaux, amicaux, qui pouvaient se créer dans les espaces de travail grâce au design d'espace.
D'accord. Donc, à qui s'adresse ton travail ou tes conseils ?
Alors, principalement, effectivement, aux ensembles où on travaille. Alors, mais ça peut être tous les lieux. Alors, je dis souvent que je ne traite pas les lieux où on dort, en fait.
Oui.
Donc, je n'ai jamais fait de projet pour les hôtels, par exemple.
D'accord.
Par contre, j'ai fait des espaces de travail, effectivement, des bureaux, mais des sites industriels, des sites plutôt liés au commercial également. Donc, tous les lieux où on peut travailler,
oui.
Des gares, enfin bon, tous les lieux où on travaille sont des lieux propices à la création pour moi.
D'accord. Alors, je sais que tu as une réelle appétence pour le sensoriel également.
L'expérientiel.
L'expérientiel,
oui.
Pardon. Alors, déjà, quelle est la différence ?
Alors, c'est vrai que j'ai développé ce qu'on appelle le design d'espace expérientiel.
Oui.
Alors, tu fais le lien avec le sensoriel. Évidemment, on est sensible aux espaces par tous nos sens. Mais l'expérientiel est surtout lié aussi à la notion, comme son nom l'indique, d'une expérience utilisateur. C'est-à-dire
D'accord.
que je vais systématiquement, au-delà de ma propre expérience, parce que je suis une hypersensible au lieu, en
oui.
fait, depuis mon enfance, mais au-delà de ma propre expérience du lieu et de ma propre analyse, je m'en réfère aussi toujours à l'expérience des gens qui vivent les lieux sur lesquels je dois intervenir.
Oui.
Donc, je les audite, je les écoute. On fait souvent un, deux, voire trois, ce qu'on appelle des workshops, qui sont des ateliers, en fait, d'incubation du projet. D'accord. Préalable. Et je les associe aussi jusqu'au prototypage du projet.
D'accord.
Donc, c'est vraiment, quand je parle d'expérientiel, c'est aussi être un... Avant de créer, être quelque part un réceptacle de l'expérience ou du ressenti des gens qui vivent aussi l'espace. Et c'est souvent très enrichissant,
oui.
Parce que chacun a sa manière très particulière d'appréhender un espace. Alors, soit on va travailler reculant, soit on y va motivé.
Oui.
Et donc, les deux sont toujours très intéressants à comprendre, en fait.
D'accord. Donc, c'est une belle façon de concevoir l'espace. Parce que moi, honnêtement, je ne connaissais pas quoi. Cette manière un peu inclusive
Exactement.
De penser l'espace et d'inviter les futurs utilisateurs à penser leur espace avec toi.
Et à se projeter, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est souvent difficile parce qu'un espace, tu le remarqueras, une fois qu'on a fait l'aménagement, que ce soit chez soi ou même dans un espace de bureau, il a tendance à rester figé.
Oui.
C'est-à-dire que même si on le prévoit modulable ou modulaire, eh bien tu t'aperçois qu'en fait, tu reviens un an, deux ans ou même 10 ans après, peu de choses ont changé. Peut-être un peu la déco, la couleur, certains mobiliers, mais les fonctionnalités n'ont pas évolué.
Oui.
Et donc, tout mon travail, c'est aussi de faire comprendre que c'est possible. Il
D'accord.
suffit juste de le vouloir et de le permettre, en fait, aux utilisateurs. Donc, ma démarche est aussi dans l'expérientiel, pas du moment, mais le coup d'après, quelque part. C'est-à-dire
D'accord.
leur dire que l'espace leur appartient et qu'ils peuvent être maîtres de leur espace de travail et donc faire en sorte que l'espace les serve au lieu que ce soit l'inverse, en fait.
D'accord. Alors, quelle est ta vision et l'avenir de l'expérientiel / sensoriel?
Alors, il est vrai que là, on vient de vivre 2 ans et demi un peu particuliers, puisque on a vu une montée en puissance du distanciel, du
oui.
travail à distance, des visioconférences, des appels téléphoniques, des conférences en ligne. Certains ont passé même leur journée entière devant un écran en télétravail. Et donc, cette notion de distance et donc pas de présentiel dans l'espace et donc d'expérientiel différent a eu un impact quand même réel sur Oui. nos modes de travail. On s'aperçoit que du coup, on n'a pas un retour à 100% dans les espaces de travail comme les managers le souhaiteraient
Oui.
ou les dirigeants le souhaiteraient. C'est-à-dire que le télétravail a été mis en place pour certaines entreprises à hauteur de 2 voire 3 jours, en tout cas en province,
oui.
Sur le temps hebdomadaire, ce qui du coup pose un souci maintenant aux managers à cette notion de le lien relationnel que peut produire la présence, l'expérientiel du collectif.
Oui.
C'est-à-dire qu'être à distance pose, malgré la volonté, la bonne volonté de chacun, pose tout de même le souci de l'engagement
oui.
individuel pour le collectif et donc de l'engagement pour le développement de l'entreprise et donc du travail collectif. D'ailleurs, beaucoup ont changé de carrière, beaucoup se sont remis en question, voire
ont oui.
complètement démissionné sans avoir d'opportunité. Donc on voit bien que les modes de travail sont en plein bouleversement. Ce n'est pas encore calé. Et je pense qu'avec les nouvelles générations, c'est encore plus... expérientiel, mais dans le disruptif. Il passe d'un état présentiel à distanciel beaucoup plus facilement que nous.
Oui.
C'est beaucoup plus naturel. À contrario, ce qu'on constate, c'est que ce sont des générations du zapping qui restent concentrées peu de temps. Et c'est
oui.
normal, parce qu'en fait, on a un temps de concentration et donc un expérientiel moins intense à distance.
Oui.
On s'est prouvé scientifiquement, hein, on peut rester connecté, enfin concentré en connexion via un écran, maximum, grand maximum, 30, voire 40 minutes si vraiment on est très très concentrée,
oui.
Mais au-delà de 40 minutes, on perd la concentration et on perd l'efficacité du travail.
Oui.
Donc en fait, il faut aussi qu'on intègre, même nous, dans notre conception d'espace de travail, cette notion de distanciel, de temps partagé et d'expérientiel limité. C'est-à-dire que les temps de concentration sont plus courts et du coup, les espaces doivent répondre aussi et doivent répondre à ces nouvelles fonctionnalités du temps de travail. Donc c'est intéressant, mais c'est assez challengeant parce qu'il faut que chacun puisse y trouver sa place. Donc je dirais que c'est un peu le challenge du futur espace expérientiel.
D'accord. Alors, on va revenir sur ton activité, SG Design. Quelle est la genèse de ton entreprise ?
Alors, à l'origine, j'étais salariée pendant 5-6 ans, 5 ans et demi exactement, avant de décider de monter mon entreprise. Et c'était suite à une période de chômage. J'ai été 6 mois au chômage, après un contrat assez important pour une entreprise tourangelle. Qui était un CDD, donc, et j'étais enceinte, tout simplement. J'attendais ma fille. Donc j'étais enceinte de 6 mois, période de chômage de 6 mois. Donc, comme je suis quand même une hyperactive, je me projetais sur effectivement ce que j'allais pouvoir faire professionnellement parlant. Et donc j'ai profité de ces 6 mois pour imaginer mon futur professionnel. Et donc j'ai créé mon entreprise.
D'accord.
J'ai contacté. Pendant ma grossesse, les anciens clients, j'ai fait une étude de marché.
D'accord.
Donc, j'ai créé l'entreprise le 3 janvier avec déjà 3 contrats, avec un de mes plus gros clients qui est toujours mon client 18 ans après.
Magnifique.
Donc, ça a été un sacré challenge parce qu'en fait, j'y allais vraiment à l'aveugle. Tu te doutes bien qu'en école artistique et école d'architecture, on ne t'apprend pas à créer une agence, faire du commercial, faire de la comptabilité, à avoir une vision financière en fait, de ton avenir professionnel. Donc ça, je l'ai appris sur le tas, je me suis formée. Donc ça, ça a été le plus grand challenge en fait. Ce n'était pas le fait de créer une entreprise qui était en lien avec mes capacités ou intimement ce que je voulais porter comme valeur dans ce que je faisais, mais c'était plutôt me cadrer sur le côté juridique, comptable,
et
financier, administratif, de la gestion d'une agence.
D'accord.
Donc j'ai appris sur le tas ces sujets-là.
Oui, c'est formateur.
Oui, tout à fait.
D'accord, donc tu crées ton entreprise il y a 18 ans. Quelle stratégie a fonctionné pour toi ?
C'est un peu la jeunesse, c'est-à-dire se dire que on connaît des gens, on a déjà un réseau professionnel existant. Il faut juste oser aller vers eux. Je te l'ai partagé, j'ai un adage personnel qui me motive toujours, c'est-à-dire il vaut mieux risquer de réussir que de ne rien faire. C'est-à-dire
Absolument.
Qu'effectivement, si tu ne fais rien, si tu ne risques pas d'aller vers les autres, si tu ne tentes pas ta chance, aussi minime soit-elle, il est certain qu'il ne t'arrivera rien.
Absolument.
Donc, en fait, j'ai un peu forcé mon destin et puis forcé aussi... je me suis dit qu'il y avait des gens que j'avais rencontrés dans ma vie professionnelle en tant que salarié. Ça s'était bien passé, qu'il y avait une confiance et donc il n'y avait aucune raison qu'ils ne me fassent pas confiance pour la suite. Et il est vrai que j'ai toujours eu cet état d'esprit pour tous les projets que j'ai menés. Il m'est arrivé même de refuser des projets importants, parce qu'en fait, ça ne matchait pas avec le dirigeant que je m'apprêtais à accompagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, c'est des accompagnements de long terme. Quand on commence un projet, ça peut durer des semaines pour les plus courts, mais ça peut durer des mois, voire des années. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est une démarche... C'est pour ça, quand je parle d'expérientiel, c'est une vraie expérience humaine, mais aussi une expérience de long terme.
D'accord.
Donc, il faut être sûr que la personne avec qui on va, ou le groupe de personnes, parce que souvent, tu as les codir, tu as les équipes de direction, donc tu dois vraiment t'adapter à différentes personnalités, les accompagner le plus possible dans leur démarche de projet, mais aussi dans leur transformation des modes de travail. Donc ça, ça demande un effort particulier, même pour moi, par rapport à mon état d'esprit, aux idées que je peux développer, parce que souvent, tu as plein d'idées, mais on t'arrête en chemin. Donc, je dirais que c'est à la fois, quelque part, ce qui me motive, mais c'est aussi, quelquefois, le risque. Il ne faut pas perdre sa propre personnalité dans les projets que l'on peut suivre, parce qu'on s'y engage énormément, enfin, en tout cas pour ma part.
D'accord. Donc, ta stratégie, je vais y arriver, aller vers l'autre, oser, en fait.
Oui, tout à fait.
Alors, à contrario, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Alors, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que par trois fois, donc je pense qu'effectivement, là, il faut abandonner, j'ai eu l'occasion de créer des associations, de m'associer, de faire grandir l'agence, de développer mon activité. Et par trois fois, au moment de signer, ça ne s'est pas fait. Alors, ça ne s'est pas fait, pas forcément parce qu'il y avait inadéquation avec la personne, mais c'était un événement extérieur qui faisait que la personne s'en allait pour un des cas, avait une aventure professionnelle ailleurs. Une autre, financièrement, ne pouvait plus le faire. Et la troisième, en fait, on n'a pas pu signer le jour même.
Oui.
Problème administratif. Et donc, ça ne s'est jamais fait.
D'accord.
Et donc, je me suis dit que c'était des signes de l'univers, que malgré ma volonté, et donc malgré le fait que j'osais, du coup, tu vois, aller vers les autres et essayer de développer, de me challenger aussi sur ma manière de penser l'entreprise et le développement de ma manière de faire ou d'aborder des projets, eh bien, ça ne matchait pas. Donc, effectivement, je dirais que c'est un petit peu ma déception, quelque part, parce que j'ai pas réussi à le concrétiser, mais je me suis dit que c'était certainement des signes de l'univers et que ça devait pas se faire.
D'accord. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que je trouvais sur Internet te concernant. Donc, une chose qui m'a frappé, c'est une vie à 100 à l'heure.
Ah.
Pourquoi ? Parce que tu es dans plein de domaines, déjà ta société, tu es dans le monde associatif, tu es élu. Là, je me dis, quand et comment parviens-tu à souffler ?
Oui, alors en fait, toutes ces activités me nourrissent en fait, intellectuellement.
Oui.
Dès le départ, c'est vrai, j'ai toujours été engagée au niveau associatif depuis que je suis en capacité de mener des projets, même quand j'étais... en école d'archi ou même aux Beaux-Arts, je menais déjà des projets associatifs, très différents d'ailleurs de mes activités artistiques. Je trouve ça intéressant. Ça m'oblige justement à aller vers d'autres domaines, à rencontrer d'autres personnes et donc à remettre en question des fois tes propres opinions, tes propres pratiques.
Oui.
Donc ça, je trouve ça très challengeant et voilà, personnellement, ça me nourrit. Alors, j'ai eu des coups de mou, comme tout le monde, de toute façon.
Bien sûr, oui.
Mais quelque part, ça me donne aussi de l'énergie. Souvent, si par exemple j'ai un coup de mou au niveau professionnel, les associations et mes engagements associatifs, qui sont surtout liés à la valorisation de l'entrepreneuriat au féminin, la place de la femme dans la société, comme tu sais, depuis des années, ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Parce que je rencontre des femmes très différentes de mon univers professionnel, pardon, puisque mon univers professionnel est principalement masculin, il faut le dire.
Oui.
C'est un choix. Moi, depuis que je suis enfant, je suis mon père sur les chantiers, c'est quelque chose qui me passionne, mais je sais que c'est un univers où, quand on est femme, pour faire sa place, c'est quand même un vrai challenge de tous les jours. Donc, j'ai eu besoin de pallier un peu ce manque de relations féminines et, avec mon engagement associatif. Et puis, la partie élue est arrivée, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai, un peu par hasard. Ce n'était pas vraiment prévu. Je faisais partie d'une liste, effectivement, de soutien sur ma ville. Et un de mes collègues a été obligé de démissionner pour raisons personnelles. Et donc, c'est moi qui suis arrivée, qui l'ai remplacée, mais... J'étais pas normalement élue, donc mais je prends ce rôle et cette mission à cœur, donc j'essaye de le faire le mieux possible, même si effectivement je suis élue de minorité et n'ai pas forcément un pouvoir énorme dans mes actions, mais j'essaye surtout d'avoir des actions plutôt solidaires, du coup, et donc de rencontrer justement des gens complètement différents de mon activité professionnelle, en aidant sur des sujets, ceux qui ont un petit peu moins de, de chance dans leur parcours professionnel ou même scolaire. Ça, c'est ce qui m'intéresse, donc plutôt auprès des jeunes générations.
D'accord. Donc, c'est ton...
C'est mon moteur, on va dire. C'est mon énergie.
Voilà, ce que j'allais dire. Qu'est-ce que pour toi un entrepreneur ?
Quelqu'un qui ose, ça c'est certain.
Oui.
Qui ose prendre des risques pour les autres. Et qui a surtout tout de même la responsabilité de ses risques. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va aller vers des opportunités,
oui.
qui innove, je pense, mais qui est en capacité de rallier un collectif autour de lui pour pouvoir y arriver.
Oui.
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met à profit ses capacités personnelles et celles d'autrui pour aller vers quelque chose de plus grand qui sert le collectif. Ça, c'est ce qui, vraiment, d'abord, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je pense le plus vertueux dans un état d'esprit entrepreneur.
D'accord. Une belle définition de l'entrepreneur.
Je ne sais pas, c'est la mienne en tout cas.
Chef d'entreprise d'expérience, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer ? Le principal conseil que tu donnerais ?
Tu veux en un mot, en une phrase, en un peu...
En une phrase, si ça tient ?
En une phrase, se faire plaisir.
D'accord.
Oui, je pense que c'est essentiel de se lancer dans l'entrepreneuriat sur quelque chose qui nous tient à cœur.
Oui.
C'est primordial parce que c'est ce qui fait tenir sur le long terme.
Oui.
Et c'est ce qui te fait rencontrer des gens extraordinaires. Donc oui, je pense que c'est ça. Quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fasse plaisir.
D'accord. Bah, tu vois, je n'avais pas encore eu cette réponse.
Ah bah tu vois.
Et je la trouve formidable. Parce qu'on peut tout penser. Et si on est ou on crée une activité qui ne nous fait pas du tout plaisir, il y a un gros problème.
Oui, parce que je pense que quand tu y mets du cœur, même... Alors, vie d'entrepreneur, tu as toujours des difficultés.
Ouais.
Il y a des hauts et des bas. Honnêtement, tu as des années formidables, puis tu ne sais pas pourquoi. L'année d'après, tu es vraiment dans des défaites, tu accumules... C'est des hauts et des bas.
Oui.
Donc, si tu n'es pas intimement lié avec le cœur à ton activité, en disant, de toute façon, c'est pas grave, je rebondirai parce que ce que je fais est en lien avec moi-même et vraiment des valeurs que je porte, c'est compliqué.
Oui.
Enfin, pour moi, c'est compliqué. D'autres savent très bien le faire. Moi, ça aurait été difficile, en fait, de me lancer dans cette aventure sans avoir ce lien. C'est pour ça que je parle d'expérientiel, parce
oui.
que c'est une vraie expérience.
Bien sûr.
Puis ma discipline, voilà, je pense que j'innove dans ma discipline, sans prétention. Hein. Donc, du coup, j'y mets tout mon cœur et je pense qu'effectivement, prendre du plaisir dans ce qu'on fait est la clé pour durer.
D'accord.
Et innover.
Oui. Alors, aller vers l'autre, c'est constituer son réseau. Et dans l'un des nombreux articles où tu as été interviewé, tu parlais de réseau, justement. Comment constitue-t-on son réseau de manière solide et pérenne ?
Alors, en fait, le premier réseau que j'ai constitué, sans le savoir, honnêtement, je ne le savais même pas, c'était le réseau donc Femmes 3000. J'ai créé une association pour rendre visibles les femmes en Touraine. Et au départ, comme je te l'ai dit, c'était plutôt pour trouver des interlocutrices parce que je n'avais que des hommes professionnellement et j'avais besoin de ce relationnel féminin
oui.
pour peut-être grandir aussi et trouver ma place de femme dans la société. Je ne sais pas, il faudrait faire une petite analyse sur le sujet. Et donc, sans m'en apercevoir, je me suis constitué un réseau,
oui.
Mais à partir de quelque chose qui me tenait encore à cœur. Donc,
oui.
tu vois, donc je dirais que, effectivement, se créer un réseau simplement pour avoir des cartes de visite et des opportunités commerciales ou financières, pourquoi pas ? Je pense qu'il faut qu'un vrai réseau, un réseau qui dure, un réseau d'amis aussi, de soutien, à la fois professionnel, financier ou même juste intellectuel, se construit sur la durée, mais également avec affinité
oui.
et cœur encore. Je suis désolée, je reviens encore sur ce sujet-là. Et toi, par exemple, après Femmes 3000, je me suis engagée au réseau Entreprendre.
Oui.
Également, je suis rentrée en 2016 au réseau Entreprendre sur la notion d'entrepreneuriat au féminin. Donc, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai beaucoup œuvré sur le sujet et j'œuvre encore sur le sujet. Et donc, du coup, le réseau Entreprendre, parce qu'il y avait des valeurs où on est entrepreneur, mais pour créer des emplois.
Oui.
Donc, tu vois encore cette notion de ce n'est pas moi en tant qu'individu uniquement, c'est aussi un individu au service du collectif pour apporter un petit peu plus dans notre société.
Oui.
C'est peut-être un peu utopique, mais en fait, voilà, c'est ce qui me motive. Donc, je dirais que créer un réseau qui répond aussi à nos propres valeurs.
D'accord.
Ça, pour moi, c'est un réseau qui peut fonctionner.
Et qui va durer.
Et qui va durer.
D'accord. Dans ta vie professionnelle, donc, moi, je pense que tu as une vie d'expérience. On parle d'expérientiel, mais 18 ans chef d'entreprise, il y a de l'expérience. As-tu des mentors ou des personnes que tu as croisées qui t'ont aidé à être celle que tu es aujourd'hui ?
Alors, ça va être très perso. Mon premier mentor, je l'ai dit, c'était mon papa.
Oui.
Donc, voilà, depuis que je suivais sur les chantiers. Et ça, c'est pas pour la blague, mais je pense que dès que j'ai eu, 5 ans, je pense, je me souviens dès 5 ans, l'avoir suivi sur les chantiers et avoir été avec lui.
Oui.
Donc, ça m'a vraiment imprégné. Il m'a donné le sens de la valeur du travail, tu vois.
Oui.
Donc, d'une part. Deuxième mentor, je dirais que c'est quelque part le premier client qui m'a fait confiance, dont je t'ai parlé tout à l'heure,
oui.
Que j'avais rencontré. Écoute, si on a un petit peu de temps, je peux te raconter rapidement.
Allons-y.
J'avais rencontré, j'étais salariée, mais vraiment, j'étais dans un bureau d'études.
Oui.
Je faisais simplement des dessins à l'époque. Donc,
oui.
Tu vois, j'étais vraiment toute petite. Professionnellement parlant, et on était sur une visite de site, un ancien site informatique à Orléans, je me souviens bien du bâtiment, c'était assez atypique, et j'y vais avec la chef de projet à l'époque, je rencontre ce client, et je ne sais pas, sur un coin de bureau, il m'explique ce qu'il souhaite faire, et sur un coin de bureau, je lui dessine comment je vois l'espace. Et ça matche tout de suite, on trouve des solutions. Et je lui ai solutionné une difficulté. Mais voilà. Et quelques années plus tard, donc, je le rencontre, mais j'avais changé de statut. J'étais dans une autre entreprise, chef de projet. Et c'était moi qui manageais un nouveau projet pour lui. Et donc, il me dit « Ah, mais je me souviens de vous ». Donc voilà, tu vois, la relation se crée rapidement.
Ouais.
Et c'est cette même personne que je suis allée voir quand j'ai souhaité... créer mon entreprise, quand j'étais enceinte, quand j'ai fait mon étude
D'accord,
de marché,
ouais.
Et qui m'a dit, pas de problème, si vous montez votre entreprise, je vous donnerai du travail. Et donc, j'ai signé mes 3 premiers contrats avec lui. Donc, il n'est plus dans l'entreprise et il est parti à la retraite. C'était EDF et j'ai fait des énormes projets pour eux. Donc,
D'accord.
Oui, ça a été Alors, ça n'a pas été un mentor professionnel... en tant que tel, en tant qu'inspiration, ça a été plutôt un mentor dans la confiance relationnelle.
D'accord.
Et puis, des mentors, des femmes qui m'inspirent, sont plutôt des femmes architectes-designers. Donc, Hélène Gray, qui est une architecte du début du XXe siècle.
D'accord.
Et Zaha Hadid, qui a disparu malheureusement au début en 2005, qui est aussi également une grande femme architecte. Voilà.
OK. Quels sont tes futurs projets ?
Alors, professionnellement parlant, je développe toujours l'expérientiel. Et après 18 ans, alors la période Covid a aidé, on a fait beaucoup de visio, donc parce que je fais beaucoup de conférences en présentiel pour un peu partager mon savoir-faire, j'en ai toujours fait. Donc là, je me suis mise depuis 2 ans au webinaire pour un peu continuer ce lien et partager.
Oui.
Et là, je me mets au live. Donc, tu vois, tous les mercredis à 12h12, je fais un live de 10 minutes
D'accord.
sur Instagram. Donc, je découvre cet outil et 10 minutes d'impact design pour un peu inspirer sur comment justement... être à l'écoute de ces espaces de travail et faire en sorte qu'on puisse mieux y vivre et non pas forcément les subir.
Oui.
Puisque, je te l'ai dit, je crois beaucoup à l'influence des lieux sur la dynamique des occupants.
Oui.
Donc, tu vois, c'est le petit challenge. Au niveau de l'entreprise, on est sur une année... Alors, le bâtiment est compliqué cette année parce qu'il y en a une hausse énorme des matières.
Oui.
On a un ralentissement dans la réalisation des projets. Donc, effectivement, on a des études, mais on n'arrive pas à réaliser parce que les budgets explosent, hein, clairement.
D'accord.
Donc, on a une vraie difficulté. On espère que ça va quand même un petit peu se remettre à niveau. Mais les curseurs ne sont pas super bien stabilisés, hein, en termes d'équilibre financier, ouais, même mondial. Donc, on voit aussi que nous, à notre niveau, on subit aussi les influences des marchés mondiaux.
Oui.
Et puis, un sujet qui est aussi important pour moi, sur lequel je travaille depuis des années et qui s'amplifie, c'est la sensibilisation à l'environnement, à notre impact.
Bien sûr.
À l'impact environnemental, mais aussi à l'impact santé, des projets et des bâtiments sur lesquels on intervient.
Oui.
Donc ça aussi, c'est un sujet que je porte depuis plus de 10 ans et qui arrive sur le devant de la scène un peu... pressé par cet impact environnemental. Donc j'espère que c'est des choses que je vais pouvoir plus développer auprès des clients. Parce que je pense aussi que maintenant, ils sont prêts à entendre aussi ce type de discours et ce type de développement pour eux-mêmes et leur entreprise.
Ok. Quel entrepreneur me conseillerais-tu d'inviter ?
Alors oui, je t'ai conseillé d'inviter Alain Blanchard, de L&B et Synergie, qui est en fait... donc, il est fondateur de sa propre agence de communication.
Oui.
Depuis plus de 20 ans, je crois, maintenant.
D'accord.
Et Alain est également très engagé au niveau associatif sur le sport en entreprise.
Oui.
Et l'impact que peut avoir, en fait, l'activité physique sur l'image de marque d'une entreprise, mais bien au-delà. Donc, il donne beaucoup de son temps sur ces sujets-là. Et il a d'ailleurs été précurseur ici, puisqu'il a initié les Jeux nationaux de sport en entreprise qui ont eu lieu, je crois, le mois dernier.
D'accord.
Et qui ont rassemblé près de 2000 personnes.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui a eu... un état d'esprit vertueux et qui allie à la fois son engagement entrepreneurial avec son engagement associatif. Donc oui, quelqu'un que j'estime beaucoup.
Ok, je note. Comment te contacter ?
C'est très simple.
Oui,
tu tapes mon nom sur Internet, moteur de recherche Google, tu vas me trouver. Sur LinkedIn,
oui,
où quand même maintenant c'est devenu un réseau professionnel assez actif et où en fait j'échange d'ailleurs très régulièrement avec des chefs d'entreprise. Donc,
d'accord.
Voilà.
Et Instagram ?
Oui, peut-être que je m'y mets.
Ouais.
C'était difficile, je t'avoue, au départ.
Ouais.
Mais je trouve qu'en fait, c'est malgré mes premières réticences, en fait, c'est un réseau qui permet d'être en lien direct avec les personnes. Alors, certainement des personnes plus jeunes et une génération plus jeune.
Oui, mais qui a à apprendre.
Et qui, voilà, et je pense qu'il faut d'ailleurs aussi nous challenger, nous. Alors, j'ai 50 ans cette année, hein, donc c'est pour ça que pour moi, je suis déjà d'une génération, mais j'ai des enfants qui sont de la génération Insta. Donc, du coup, ils m'initient.
Oui.
C'est assez rigolo, c'est eux qui me disent « Bon, maman, là, t'as été nulle. Là, t'étais plutôt bien. Bon, là, c'est pas terrible. » Donc, c'est bien parce qu'eux, ils ont pas de filtre, hein, tu vois, en général.
Bien sûr,
Bon, je fais ce que je peux. J'essaye de mettre à la disposition de ceux qui voudraient en savoir plus sur ce métier. Et voilà, je partage au maximum, je l'espère en fait, ma vision, j'irais presque mon état d'esprit et ma philosophie,
oui,
du design d'espace qui peut influencer donc les personnes.
D'accord. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Et ce fameux pot que tu as devant toi, tu vas devoir tirer un petit papier où il y a une question
subsidiaire.
Bon, c'est pas la question piège, mais
défi à venir. Défi à venir. Je t'en ai un peu parlé, donc c'est un peu le défi environnemental, je dirais,
oui,
dans nos pratiques, dans nos sociétés. Alors ça, je le porte aussi dans mon engagement à la fois associatif, mais également d'élu.
Oui.
Je suis engagée clairement sur l'environnement. Je trouve que on peut avoir un impact et travailler la transition écologique d'une manière solidaire,
oui.
tout en gardant en tête que nous sommes dans des sociétés capitalistes et économiques. Oui. Donc il ne faut pas laisser sur le côté des gens qui ne pourraient pas en bénéficier, mais également ne pas être élitiste dans sa manière de penser l'environnement.
Oui.
C'est très difficile. Les enjeux sont énormes pour notre planète.
Oui.
Chacun peut faire ce qu'il peut à son niveau. Et j'essaye, moi en tout cas, au niveau professionnel, personnel et même associatif, et donc même... politique, du coup,
oui.
D'apporter quelque chose sur ces sujets-là. Donc oui, le prochain défi est pour moi environnemental, global, mais aussi individuel.
D'accord.
Un projet aussi sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui va être lancé là, dès septembre, c'est un projet de design engagé, solidaire, que je mène en collaboration avec Emmaüs, avec l'école Sainte-Marguerite,
oui.
et également le lycée d'Arsonval. On va mettre en place sur un an un projet pédagogique pour initier les étudiants à du design vertueux.
Oui.
Donc, ce qu'on appelle le upcycling. Donc, mettre en partenariat Emmaüs et les compagnons sur de la conception de nouveaux usages d'objets et de meubles, mais aussi de matériaux
oui.
qui sont destinés, en fait, à la déchetterie, donc que l'on récupérerait auprès d'Emmaüs. On va leur redonner de nouvelles vies, de nouvelles fonctions. Les étudiants vont avoir ce projet tutoré pendant un an, donc ça va leur être utile sur la validation de leur année et de leur diplôme. Puis ça va nous permettre aussi de créer un projet pédagogique et créatif, intergénérationnel, mais aussi intersocial.
Oui.
Donc, il va y avoir 6 workshops de créer sur le sujet, avec une exposition finale, un jury final, et donc une vraie démarche pédagogique et valorisant l'expertise du design au service de tous. Donc, je suis très fière de ce projet qui prend forme.
D'accord.
Donc, ça va être le challenge 2022-2023 avec D'accord. des étudiants et okay. Emmaüs.
D'accord. Ben merci. Nous arrivons à la fin de notre podcast. Tu auras le mot de la fin. Quel est-il ?
Osons, soyons rêveurs, malgré tous les défis que l'on peut avoir au niveau personnel et professionnel. Et puis, oui, j'espère pouvoir continuer ce que j'ai initié sur le design d'espaces expérientiels et inspirer ouais, les espaces de travail qui sont un petit peu... mis de côté, je trouve,
ouais,
au niveau architectural, ouais, laissé pour compte au niveau ouais. architectural, qui sont plutôt traités comme étant des décorums d'une activité économique,
ouais.
alors qu'en fait, il y a des vrais liens qui s'y créent, des vrais enjeux pour nos sociétés, à la fois environnementales, mais aussi sociétaux.
D'accord. Ben, parfait.
Super challenge. Hein.
Oui, belle conclusion. Ben, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ton expérience et puis ton temps.
Merci à toi Samuel, c'était un entretien atypique et je trouve inclusif. Donc,
ouais.
Merci de cette expérience.
Merci à toi et à très bientôt. Je te remercie pour ton écoute. Cet épisode t'a plu ? Tu souhaites nous soutenir ? Tu peux le faire en réalisant plusieurs petites actions. En likant cet épisode sur ta plateforme d'écoute, cela permettra d'améliorer notre référencement. Tu peux aussi partager cet épisode à ton entourage. Pour nous suivre, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast sur la plateforme audio de ton choix. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Merci à toi, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.